Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Mercredi, nous découvrirons en salle le nouveau film de Jean Becker, Le Collier Rouge, adapté du roman de Jean-Christophe Ruffin. Rencontre avec le réalisateur dans un instant. L'œuvre de Gene Delacroix est au cœur d'une exposition événement qui ouvrira ses portes jeudi au Louvre. Et que Monique Younes nous fera découvrir en avant-première, très joli cadeau au 3210, nous offrirons à chaque gagnant un abonnement d'un an, au musée du Louvre. Le chanteur et compositeur Charles Dumont a 89 ans aujourd'hui. Il tirera sa révérence ce soir après un ultime spectacle donné dans sa salle fétiche de Bobino à Paris, à suivre ses confidences au micro de Stephen Bellery. Et puis à la télévision, sur M6, à 21h, Wild, la course de survie, un nouveau jeu d'aventure présenté par Stéphane Rothenberg. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
À bientôt, 85 ans, Jean Becker reprend donc du service. Derrière une caméra de cinéma, bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Le Collier Rouge est le 15e film du réalisateur de L'été meurtrier, d'Elisa ou encore de La tête en friche. Et encore une fois, eh bien, c'est l'adaptation d'un roman.
Oui, signé Jean-Christophe Ruffin, paru en 2014, l'histoire d'un héros de la guerre 14-18 qui risque la prison pour avoir décoré son chien à sa place afin de dénoncer l'horreur du champ de bataille et l'aveuglement meurtrier de la hiérarchie militaire face à l'accusé ingradé qui va tenter de comprendre son geste et découvrir en enquêtant sur son passé les blessures intimes du jeune homme. Nicolas Duvauchel et François Cluzet forment le duo vedette de ce Collier Rouge dont le thème central touche directement et personnellement Jean Becker.
Mon grand-père est un homme que j'adorais, qui avait fait 4 ans de tranchée, qui avait été blessé et tout, pour qui j'avais beaucoup d'admiration, non pas parce qu'il avait fait 4 ans de tranchée, mais parce que c'était un homme bien amusant, un peu fort en gueule comme ça. Mais si vous voulez, chaque fois que je voyais à l'Arc de Triomphe commémorant le 14-18, connaissant un peu l'histoire, cette nomenclature et ces généraux d'époque ont envoyé des millions de gens dans des tueries insupportables. Le côté héroïsme de tout ça, je me demande par moments où il est, quoi. Il y a eu complètement des gens qui, quelque part, envoyaient des autres au charbon sans s'occuper du tout du sort qui allait être le leur.
Le face-à-face Cluzet du Vauchel évidemment constitue le temps fort de ce film avec notamment le renfort au dialogue de Jean-Loup d'Abadie, mais le Collier Rouge réserve aussi de belles scènes d'action dans les tranchées qui ont été reconstituées en Charente. Pas forcément le moment du tournage préféré de Jean Becker.
Ah, pas du tout. Non seulement je ne m'amusais pas, mais j'avais mal. Et moi, j'étais dans une espèce de casemate. J'avais mes combos, là, comme ça, et je regardais les trucs. J'ai dit, non, là, il faudrait faire ça. Et les mecs glissaient dans la boue. Il faisait froid, il faisait chaud, et machin. Il était là, sous la pluie, sous les machins qu'on mettait dedans. Et à la fin du tournage, il y avait ma casemate, elle était ouverte, comme ça, sur le côté. Et les hommes, ils passaient, comme ça, bourrés de, sous la pluie, bourrés de boue et tout ça. C'était des figurants de la région et qui se sont conduits, mais extraordinaire. Et il passait, il me disait, merci monsieur Becker. Il me remerciait d'avoir tourné dans ce film, de se retrouver comme des soldats de 14-18. Il était heureux d'avoir vécu ça. Ça m'a vachement touché, ça.
Alors revenons à François Cluzet, Stéphane. Se sont ces retrouvailles avec Jean Becker 35 ans après L'été meurtrier.
35 ans, les deux hommes ne se sont jamais perdus de vue mais n'avaient jusqu'ici jamais trouvé l'occasion de retravailler ensemble. François Cluzet, heureux et ému d'avoir enfin pu le faire pour Le Collier Rouge.
C'était, j'avoue, vraiment une bonne surprise. Jean avait été un de ceux qui m'avait confié un rôle vachement intéressant dans L'été meurtrier, qui avait fait beaucoup parler de moi. J'étais très heureux. Ce qui était très intéressant, c'était de voir son évolution en tant que metteur en scène. Moi aussi, évidemment, j'ai 35 ans d'expérience de plus, mais vraiment, c'était complètement bluffant de voir le metteur en scène qu'il était devenu, ce qui me semblait pas être le cas sur L'été meurtrier, bien que le film était très réussi. Là, il y avait, ce qui m'a totalement épaté, un point de vue, une force, et sans équivoque. Chabrol avait exactement la même chose que Becker. Ils ont leur film dans la tête et ils n'en démordront pas. Ils en ont rêvé, ils pourraient te le dessiner du début jusqu'à la fin. Il y a quelque chose de ces metteurs en scène qui n'existe plus, puisqu'aujourd'hui, on a tendance, et même avec des grands metteurs en scène, à d'abord avoir un script qui est trop long de 3/4 d'heure. Et chez eux, non. Il y a une prise de risque totale. Personne ne pourrait imaginer dire à Jean Becker « Et si tu te mettais un peu plus là ?» ou « Si tu faisais ci ?» quoi. C'est très impressionnant. C'est en ce sens qu'ils sont patrimoniaux dans leur talent.
Oui, patrimoine, un mot qui convient parfaitement au cinéma de Jean Becker. Certains vont trouver ça vieillot. Pour moi, Le Collier Rouge, c'est un film d'artisan. Tout compte, la mise en scène, la lumière, la figuration, les décors, les costumes. On le disait pour commencer, Jean Becker fêtera le 10 mai prochain ses 85 printemps. J'ai terminé en lui demandant s'il était partant pour un 16e long métrage.
Très sincèrement, si je trouve un très beau sujet, peut-être que je remettrai le couvert. Mais rien n'est moins sûr, parce que là, j'en ai vraiment bavé. Là. C'était formidable de se faire ce film. Je suis très heureux de l'avoir fait. Mais ça ne suit pas vraiment physiquement. Oui, parce que c'est dur, quoi. Je ne suis pas forcément très bien entretenu physiquement. Donc j'ai mal aux pattes, j'ai mal aux genoux, j'ai mal ceci, j'ai mal ça. C'est quand même dur. Si je fais juste un petit huis clos entre deux types, ça ira très très bien. Simple.
Alors, en attendant de trouver ce sujet simple, découvrez Le Collier Rouge de Jean Becker mercredi au cinéma, d'après le roman de Jean-Christophe Ruffin, qui sera demain d'ailleurs notre invité pour son nouveau bouquin, Le Suspendu de Conakry.
Avec grand plaisir. Dans un instant, nous partons directement pour une merveilleuse rétrospective de la Croix, à la découverte du Louvre avec
la Monique,
Monique Younes.
Dans le peuple.
Bah, évidemment.
RTL, laissez-vous tenter 9h06.
À tout de suite.
Découvrez Sentinelle de la pluie, le nouveau suspense familial de Tatiana de Ronay, disponible en librairie. Sentinelle de la pluie, un roman aux éditions d'Héloïse Dormesson.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Monique Younes, oui. L'événement culturel cette semaine a lieu au Louvre. C'est la grande rétrospective de la Croix. Elle ouvre ses portes au public jeudi, nous sommes le 29 mars. Il n'y a pas eu de grande exposition de la Croix à Paris depuis 1963.
Oui, et on croit tous connaître de la Croix parce qu'on connaît ses œuvres les plus célèbres.
Ah bah alors, La Liberté guidant le peuple, dans tous nos livres d'histoire, Dante et Virgile, Les Massacres de Scio, c'est bien
de
ça
Scio, voilà,
et puis Sartre de la Page.
Bien évidemment, qui sont tous au Louvre. Le musée possède la plus importante collection de la Croix au monde. Eh bien, ces chefs-d'œuvre, Delacroix les a peints dans ses années de jeunesse entre 1822 et 1834, c'est-à-dire entre 24 et 36 ans. Mais il a continué à peindre pendant 30 ans, jusqu'à sa mort en 1863. Il a réalisé des œuvres très différentes et c'est cette variété qui est à l'honneur dans l'exposition que propose le Louvre, une sélection passionnante parmi les 800 peintures et quelques milliers de dessins de la main du maître.
Alors, des portraits, des chevaux, des femmes d'Alger, enfin tout ça on connaît.
Oui, mais des bouquets de fleurs, des naufrages, des Christ en croix, moins. Alors Delacroix est un écrivain raté. Enfin, pas si raté que ça, mais parmi les milliers de pages de ses articles, lettres, essais, tentatives de journal, il y a des pages bouleversantes. Certaines sont exposées sous vitrine. On se demande en voyant la fin de son premier journal s'il n'avait pas un peu forcé sur l'absinthe.
Ah bah si, on connaît la réponse.
Delacroix est un virtuose, curieux de tout, épris de gloire et acharné de travail, m'a expliqué Sébastien Allard, le directeur du département de peinture du musée du Louvre.
Delacroix est un enfant de la Révolution. Il grandit au lycée impérial, l'actuel lycée Louis-le-Grand, dans le culte de l'Empire, de la guerre, de la gloire militaire. Et en 1815, c'est la chute de l'Empire, l'Europe est pacifiée, et donc Delacroix se dit « mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux plus avoir cette gloire militaire ». Alors il dit « ben tant pis, je serai poussin ou rien, donc je deviendrai artiste ». Mais l'idée de guerre est présente évidemment dans son esprit et il la représente à travers le prisme des événements de libération de la Grèce qui se passe à l'autre bout de l'Europe.
Mais Delacroix innove en représentant la guerre. Le massacre de Scio ne montre pas des combattants, mais une famille grecque attendant la mort ou l'esclavage. Et pensez que c'est exactement ce que nos photographes de guerre nous envoient de Syrie aujourd'hui. Oui. Et vous saisirez la modernité de Delacroix dans ce tableau-là. Car on peut être beaucoup moins sensible à ces bouquins de fleurs, par exemple.
Delacroix est tout sauf un artiste maudit.
C'est la preuve vivante qu'on peut avoir du génie et du succès. Delacroix entre au musée de son vivant, au musée du Luxembourg, qui préfigurait le musée du Louvre. Dante et Virgile aux Enfers, son premier chef-d'œuvre, a été acheté par l'État en 1822. Les scènes des massacres de Scio en 1824, la mort de Sardanapale en 1828. D'ailleurs, une des plus belles surprises de l'exposition, ce sont les esquisses réalisées par Eugène Delacroix de Sardanapale. Elles vous sont commentées par Sébastien Allard.
Sardanapale, c'est un roi de Ninive qui sait que la ville est prise, qu'il va donc être exécuté et donc qu'il réunit autour de son lit tout ce qu'il a aimé. Ses femmes, ses chevaux, ses trésors, et il va mettre le feu et s'immoler. Donc c'est un sujet terrible. Là, on voit comment Delacroix veut frapper par le sujet l'imagination des spectateurs. Il n'y a plus de perspective, c'est un amas de corps, de bijoux, d'objets. Il y a un grand cheval qui surgit à gauche de la composition, on ne sait pas d'où, des esclaves qui tirent tout ce monde, et c'est une sorte d'orgie de couleurs. en fait.
Finalement, Delacroix est un très fin stratège, dites-moi.
Ben oui, c'est tout sauf un rebelle. C'est un fils de famille un peu ruiné, mais prestigieux. Son père fut ministre des Affaires étrangères et sa mère descend d'une grande famille d'ébénistes du roi. Il a vite compris qu'une des meilleures façons de se faire connaître était de faire scandale. Et son plus grand coup d'éclat en 1831 est la célébration de l'arrivée de Louis-Philippe en peignant le fameux « La liberté guidant le peuple », cette femme nue brandissant un drapeau bleu-blanc-rouge sur une barricade.
La chose la plus frappante de ce tableau, c'est que la liberté, elle vient sur vous. Soit vous la suivez, soit elle vous écrase. Et d'ailleurs, ce côté un petit peu trop véhément va faire que le tableau va être acheté par le gouvernement, puisqu'il le célèbre, et presque immédiatement mis en réserve, parce qu'on va le trouver un petit peu trop violent, véhément, et même rendu à l'artiste en 1839.
Il faut dire qu'elle a une belle paire de seins, la République. Ouais. Alors, il a beaucoup voyagé, Delacroix.
Pas tant que ça. Il a fait deux voyages. Le premier en Angleterre, en 1820, pour connaître cette ville moderne, aux multiples marchés et débouchés, où il découvre l'art du portrait et surtout la peinture animalière. Vous verrez de majestueux lions rugissants au Louvre. Mais le voyage le plus déterminant, c'est celui qu'il fait en compagnie du comte de Mornay à Tanger, Meknès et Alger. Une révélation pour lui. Il est autant fasciné par la lumière que par la population, l'ensemble représentant pour lui une sorte d'antiquité vivante, et au retour, il va peindre les femmes d'Alger dans un intérieur.
Trois femmes dans un intérieur extrêmement luxueux, avec des tissus, des soieries, des miroirs, une sorte d'image idéale de l'Orient, qu'on pourrait penser un Orient éternel. Et si on regarde la femme au centre de la composition, elle a accroché à son gilet une montre contemporaine. Donc, ce que Delacroix nous dit, c'est que ce sont des femmes de notre temps. Donc lui ne peint pas des odalisques imaginaires comme avait pu le faire Ingres ou les autres peintres qui n'étaient pas allés en Orient. Lui, il peint des vraies femmes des années 1830 qui vivent en Algérie.
Dites-moi, après ses chefs-d'œuvre, il tombe dans l'oubli ?
Mais pas du tout. Il est célébré en 1855 par une première grande rétrospective. Et quand il revient au salon en 1859, avec des études de vagues et de sous-bois et des tableaux kitsch représentant des baigneuses dans un décor idyllique, tout le monde lui tombe dessus. Sa peinture est incomprise, m'a dit Sébastien Allard.
En regardant les critiques qui l'ont enterré en 1859, en disant « mais monsieur Delacroix est mort depuis longtemps, il faut qu'il arrête de peindre », c'est très cruel. C'est un peu comme les critiques qui ont été émises avec le dernier Picasso. Il y a un vrai sujet sur les artistes qui ont été panthéonisés de leur vivant et qui ont l'audace, on pourrait dire, d'essayer de faire quelque chose d'autre que ce qu'on attend d'eux.
Il se dégage une émotion particulière du dernier tableau réalisé par Delacroix, « Quand arabe la nuit », qu'il peint en 1863, quelques jours avant sa mort. Un tableau nocturne, comme il en fait très peu, mais qui rassemble peut-être ce qu'il a le plus cherché à saisir. Le regard des chevaux, la compagnie des hommes, la lumière d'un feu, le danger de la mer et l'immensité du ciel, à découvrir au musée du Louvre jusqu'en juillet prochain.
Et nous allons vous faire gagner des billets pour visiter l'exposition Delacroix, ainsi qu'un abonnement d'un an au Louvre. Quelle est votre question, Monique ?
Delacroix est-il entré au musée de son vivant ou non ?
Votre réponse au 32-10 et rendez-vous bien entendu en fin d'émission pour savoir si vous avez gagné ces cadeaux somptueux. On parle télévision maintenant avec vous Isabelle Morini-Bosque et on signale un nouveau polar en 6 épisodes sur France 2.
Oui, ça s'appelle Le Chalet et comme son nom l'indique déjà, ça se déroule en montagne. Bravo. C'est ce qu'on appelle un polar noir alpestre. C'est pas inintéressant, parfois un peu confus au début. Mmh. On en reparlera parce que là je vais me délocaliser. On quitte la montagne. J'ai en effet adoré la nouvelle course d'aventure de survie sur M6 dont le départ se passe dans la savane.
Qui s'intitule donc logiquement Wild, la course de survie.
Je ne vous le fais pas dire. Et quand on m'a annoncé ce projet, je me suis dit forcément l'émission sera assurée par Stéphane Rothenberg, Monsieur Pékin Express, oui. Monsieur Lataupe, Monsieur Top Chef en sus. Pas vrai Stéphane Rothenberg ?
Ça prend un compliment.
Oui ?
Oui, non, c'est bien de présenter les émissions d'aventure et c'est vrai que Wild est une émission d'aventure vraiment extrême. Les candidats sont poussés dans leur retranchement. Oui, ça fait plaisir d'être à nouveau sur le pont pour ce genre d'émission. Alors, les émissions de cuisine c'est bien, mais l'aventure c'est bien aussi.
Alors, dites-moi tout, où, quand, comment, pourquoi, la genèse.
Alors Wild, c'est assez singulier, c'est une création française, Cocorico.
Le nom ne le dit pas.
Voilà, exactement. Création française, Thierry Guillaume, producteur historique de Pékin Express, a imaginé ce programme. Ensuite, il a été développé en collaboration avec M6. Et donc, ce programme n'existe pas ailleurs. Lorsque Pékin Express est une course, mais avec les autres, on a besoin des locaux, on découvre des pays. Là, on est confronté à la nature, seul, et donc confronté à soi-même. Donc, c'est vraiment le miroir, l'opposé de Pékin Express, puisqu'effectivement, ils ne vont pas rencontrer âmes qui vivent du début à la fin. En revanche, des biotopes toujours très différents, parfois ils sont confrontés à la faim, parfois à la soif, parfois au danger, parfois à leur partenaire. La nature humaine est presque plus dure que la nature toute seule. Wild, c'est une course extrême, mais c'est ça qui, je crois, lui donne tout son sel.
Voilà, la différence, vous l'avez compris, c'est donc sept experts de la survie en conditions extrêmes, Cornacan, sept novices supposés profiter de l'expérience des premiers.
Oui.
Avec le début de la fin, FAIM, arrivent bien sûr les dérapages.
Je sais ce que j'ai à faire, merde.
D'accord, ok, si tu claques, tu claques, moi je teste pas mon rythme, et puis c'est tout, on va pas nous faire chier là, merde.
C'est un gros con.
Voilà, alors c'est sûr, c'est toujours injuste parce qu'il y a de formidables moments d'entraide et d'osmose dans chaque binôme,
oui,
et puis,
mais
c'est forcément moins drôle.
Voilà.
Oui. Et comment échapper au pétage de plomb quand on est à la fois au régime et en sur-régime, soit 3 jours et 3 nuits par émission, 50 km sans nourriture ni boisson?
Oui, et cette association entre un expert sachant et un novice qui ne sait rien mais qui a envie de découvrir, c'est parfois génial, parfois c'est explosif. Forcément, l'expert a moins peur, a moins faim, a moins soif, va plus vite. Alors soit il accepte de transmettre et ça se passe bien, soit son novice n'est pas très bon élève et ça se passe pas bien. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque prime, les experts et les novices vont changer. Seul le gagnant d'une étape ne change pas, s'ils le veulent. Les autres sont mixés à chaque fois. Et donc, tiens, lui avec un tel, est-ce que ça va marcher? Un tel qui est un novice un peu revêche, est-ce qu'il va s'en sortir avec cet expert un peu feignant, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est jamais expert de tous les biotopes. Et parfois, c'est l'expert qui va craquer et ça donne de très belles histoires. Non, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Quand vous êtes militaire, vous êtes spécialiste de votre terrain d'action. Et nous, comme on a changé de biotope à chaque prime, même eux sont complètement en dehors de leur zone de confort. Alors, ils ont des bons réflexes, mais ils sont aussi en très grande difficulté et ça ajoute beaucoup de sel à cette émission.
Et c'est vrai qu'on verra des novices remontant le moral des troupes et de leurs experts. Moi, j'ai adoré. Il y a des scènes fortes, émouvantes, drôles. L'émission n'échappera évidemment tout de même pas à l'accusation de favoriser des bobofs allant se donner des frissons factices et fictifs à l'autre bout du monde. Hein.
Moi qui voyage beaucoup, on ne perd jamais son temps à sortir de son quotidien, à sortir de cette zone de confort. On apprend toujours des choses. Et c'est une manière comme une autre de se remettre en question. C'est pas du snobisme, au contraire, c'est du courage. Surtout que c'est pas un petit voyage organisé. Hein. C'est quelque chose de très très compliqué. Parce qu'au départ, on met les conditions, puis ensuite on les lâche. Hein. Alors, on a tout fait pour qu'en termes de sécurité, on les mette pas en danger. Les docteurs veillent, on n'est pas loin. Mais on pousse. On a, vous savez, des milliers de candidats. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte qu'on en sort grandi parce que différent. Tous ces gens qui disent « j'aime bien ma vie, mais je veux découvrir autre chose », moi je trouve ça très intéressant à la base.
21h, donc M6, commentaire demain.
Wild, la course de survie, et oui, bien entendu, commentaire dès demain. Dans un instant, on retrouve Steven Bellery avec Charles Dumont qui fête ce soir ses 89 ans à Bobineau, à Paris.
RTL, laissez-vous tenter, 9h19.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Une chanson, c'est trois fois rien, une chanson. C'est du champagne, un frisson. Une chanson.
Le chanteur et compositeur Charles Dumont tire donc sa révérence alors qu'il fête aujourd'hui ses 89 ans. Il se produira ce soir, une toute dernière fois, dans sa salle fétiche à Bobineau à Paris. Bonjour Steven Bellery.
Bonjour à tous.
Vous avez rencontré Charles Dumont chez lui, dans le quartier de l'Odéon, dans la capitale.
Oui, une demi-heure d'interview à 2 mètres du piano sur lequel il a composé ses plus grands succès. Charles Dumont a incarné dans les années 70 l'archétype du crooner à la française avec un répertoire de chansons sentimentales, désabusées comme Une chanson, Ta cigarette après l'amour, C'est difficile un grand amour, Toi la femme mariée. Ce soir, il fera ses adieux au public parisien, même si le mot lui brûle les lèvres.
J'ai envie de faire un petit break, un grand temps de vacances. Et ensuite, je ne peux pas dire que je ne reviendrai pas. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Voilà. Donc aujourd'hui, je dis au revoir. Ça ne veut pas dire que je vais revenir. Ça veut dire que je peux revenir sans être un escroc. J'ai quelques galas qui sont prévus depuis longtemps, encore qui vont courir en 2018. Aujourd'hui, je dis au revoir. Voilà. Ce qui est un au revoir et pas un adieu, mais qui est peut-être un adieu. Je suis là, je suis heureux d'être là, demain est à personne.
Charles Dumont peine à formuler cet adieu, car son amour pour la musique est aujourd'hui toujours aussi fort.
Je pense qu'il n'a jamais été aussi grand, parce que c'était un moyen. Et aujourd'hui, ce n'est plus un moyen, c'est une fin. Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'étais pas très attiré. Je trouvais que c'était difficile, compliqué, et que c'était très dur. Ça a été très dur. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que de tout ce que j'ai connu, de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai vu, que ce qui a été important dans ma vie, peut-être le plus important de tout, c'est la musique. Je crois que sans la musique, on serait tous orphelins. Vous vivez dans un monde extrêmement privilégié quand vous faites ce métier. Vous faites quelque chose avec tout votre cœur et vous trouvez la récompense tout de suite. Au troisième rang, il y a la récompense. Il y a un regard émerveillé, il y a des gens qui viennent vous voir, qui vous disent que vous les avez aidés à ceci, vous les avez aidés à cela. C'est extraordinaire. Comment voulez-vous avoir une force extraordinaire pour dire « ça, j'en veux plus ». C'est très difficile. C'est dire « je vais me priver de ce qui a été peut-être le meilleur de ma vie ».
question de lien, parce qu'en fait, il évoque des émotions d'adolescent. Alors, Charles Dumont est devenu célèbre grâce à Edith Piaf, hein, pour qui il a composé d'immenses chansons, Steven.
Oui, pourtant, entre les deux, ça avait mal commencé.
J'étais du Sud-Ouest, j'avais l'accent du Sud-Ouest. J'avais fait des succès populaires avec Mariano, Lucienne de Lille. Donc, elle était persuadée que j'étais un faiseur de chansons. Et ça, elle détestait.
Piaf n'a jamais voulu le rencontrer jusqu'au jour où il compose ce qui deviendra l'un des plus grands succès de la môme. Non, je ne regrette rien. Jeunesse d'un tube.
Oh, c'est très simple, j'étais à côté de ce piano qui est entre nous. Là. J'étais vraiment très embêté. J'avais trouvé l'appartement où nous sommes là, en train de parler. J'étais fauché comme les blés. J'ai donc tapé comme un sourd sur ce piano, très mécontent. Et j'ai fait cette musique, qui pour moi était une musique militaire, une musique, une marche. Etc. Et j'avais le bonheur de connaître Cora Walker, qui était une divine artiste. Et son mari était un des plus grands auteurs de la chanson française. J'ai appelé Michel Walker, il m'a dit ça me plaît très bien. Quelques jours après, il m'a appelé en me disant qu'il avait fait les paroles. J'ai dit comment ça s'appelle? Il m'a dit ça s'appelle Non, je ne regrette rien. J'ai dit j'aime pas beaucoup. Il m'a dit bah, c'est très très dommage parce que c'est une chanson pour Piaf. J'ai été donc fait virer trois fois de chez Edith. Pas manuelitari, mais quasiment. Donc j'ai dit alors, non, Edith Piaf, non, je veux pas y aller. Et, il a attendu que je me calme. Et puis deux ou trois jours, il m'a dit bon, on a rendez-vous chez Piaf à 17h, le 5 novembre 1960. Elle m'a dit jouez-moi vite votre salade ou un truc comme ça, votre truc. Je suis très fatigué. Je me suis assis au piano, j'ai tapé la chanson avec beaucoup de caractère. Elle m'a dit vous voulez pas me la rejouer une fois? Et là, elle m'a dit, écoutez, jeune homme, vous cassez plus la tête. Vous avez fait une chanson qui fera le tour du monde et qui vous suivra toute votre vie. Alors, elle ne voulait pas me voir. Je ne voulais pas la voir. Et moi, je n'ai plus quitté Edith de ce jour-là jusqu'à son décès.
Aujourd'hui, Charles Dumont ne cesse de la remercier. Je n'ai été non pas dans l'ombre, mais dans la lumière de Piaf, s'amuse-t-il. Pour elle, il composera Mon Dieu, Les Flonflons du Bal et le duo Les Amants qui lancera sa carrière de chanteur. Charles Dumont fait ses adieux ce soir à Bobino à Paris. Il reste quelques places. Il terminera son tour de chant par 4-5 chansons qu'il a composées pour Edith Piaf.
Merci beaucoup Steven Bellery. Dans quelques instants, on se retrouve pour savoir si vous avez gagné les cadeaux que vous proposez Monique Younes pour aller au musée du Louvre et on va accueillir Julien Courbet.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Pour gagner un abonnement d'un an au Louvre ou même des billets pour visiter l'exposition Delacroix, il fallait répondre à cette question que vous a posée Monique Younes tout à l'heure. Delacroix est-il entré au musée de son vivant, chère Monique?
Oui, monsieur.
La réponse est oui. Elle est brève. Ça nous arrange. Merci à toute l'équipe. Et on va tout de suite retrouver Julien Courbet.
L'impression que Monique a envie de rentrer chez elle.
Non, 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 c'est moi qui lui ai dit. Dites donc, faut pas qu'on rentre trop en retard.
Oh, ça va quand il s'agit de Delacroix quand même.
Ah oui?
Hein, pour une émission de conso comme la mienne, parler de Javel, je trouve que c'est quand même pas mal pour démarrer. Comment ça va?
Ça va bien.
Eh bien c'est
on
parfait.
A sorti notre serpillière. Voilà,
écoutez, on est au taquet, nous aussi, pour aider tout le monde. Je vous souhaite une belle semaine, monsieur Calvi, ainsi qu'à votre
plaisir.
Équipe.
Au revoir. Merci.